Bonjour Bruno.
Bonjour Dominique Souchier, bonjour à tous. Le numérique, solution pour relancer l'économie française, c'est en tout cas ce qu'affirme un rapport remis à Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 180 propositions dont on reparle dans ce journal. La tension est très vive entre Palestiniens et Israéliens à Jérusalem-Est et dans le nord d'Israël, où un jeune arabe israélien a été tué par la police. On joindra Daniel Tabor à Jérusalem. Barack Obama veut reprendre l'initiative 3 jours après la défaite de son camp aux élections à mi-mandat. Le président américain rebondit sur le terrain sociétal en nommant une femme noire au ministère de la Justice. Le scénario de l'horreur au Mexique, il semblerait que les 43 étudiants disparus aient bien été tués et leurs corps brûlés dans le sud du pays. On fera le point sur place avec Patrick John Buff et on tentera de comprendre avec l'éclairage de notre invité Jeannette Abel, spécialiste de l'Amérique latine. Et si la Chine et le Japon se parlaient plutôt que de se menacer en marge du sommet de l'APEC à Pékin, le président chinois et le premier ministre japonais vont se rencontrer. Les enjeux expliqués dans ce journal par Frédéric Charles à Tokyo. Pour se sortir de la crise, il faudra bien innover. L'économie numérique peut être une solution et la France n'est pas forcément en retard. C'est ce qui ressort d'un rapport remis hier à Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique. 180 propositions dans ce rapport qui concernent toute l'économie française. Philippe Lemoine, président de la Fondation Internet Nouvelle Génération et rapporteur du projet.
On parle de l'ensemble des secteurs de l'économie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aurait des cercles concentriques avec la filière numérique autour des métiers qui seraient très transformés, puis des métiers un peu moins transformés, des métiers qui ne seraient pas concernés du tout. Il n'y a plus d'activité aucune qui ne soit pas profondément transformée dans les outils technologiques, mais aussi dans les manières de travailler, dans les manières de faire, dans les manières de produire, de vendre, de gagner de l'argent, d'embaucher, de recruter, de communiquer. Tout est transformé, y compris dans les secteurs comme l'agriculture, comme les BTP, etc., qui peuvent apparaître comme très éloignés. C'est l'avenir global de l'économie qui est en cause.
Concrètement, quel type de changement cela implique ?
Ce qui est important, c'est de ne pas voir ça uniquement comme des changements technologiques, mais des changements qui concernent le rapport aux clients, le rapport aux personnes. Il y a 3 grandes familles d'effets. Il y a tout ce qui est lié aux effets d'automatisation avec les conséquences sur l'emploi, le travail et les conséquences sur la productivité du capital et puis aussi sur les matières premières, etc. Il y a tout ce qui est lié à la dématérialisation avec des conséquences fortes de la concurrence de nouveaux circuits de communication et de commercialisation, puis tout ce qui est lié aux personnes et aux données. Donc ça fait une batterie d'effets très importants. Et ce que l'on a voulu, c'est illustrer la stratégie générique que l'on peut mettre en œuvre face à chacun de ces effets.
Philippe Lemoine répondait à Catherine Pétillon. Une journée de manifestation aujourd'hui en hommage au jeune militant écologiste Rémi Fraisse. Des rassemblements à Nantes sur le site du projet contesté d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ainsi qu'à Lille. Les manifestations de Toulouse et Rennes ont été interdites. Un jeune arabe israélien abattu par la police dans le nord d'Israël. Des affrontements entre jeunes palestiniens et la police israélienne à Jérusalem-Est. Une tension toujours vive autour de l'esplanade des mosquées, toujours à Jérusalem. La violence est présente à 3 jours des 10 ans de la mort de Yasser Arafat. On fait le point depuis Jérusalem avec Daniel Tabor.
Un sérieux incident a eu lieu ce matin dans le village arabe de Kfar Kana en Galilée. Un arabe israélien a été abattu par les policiers venus procéder à l'arrestation d'un habitant qui était soupçonné, lui, d'actes de violence. Selon la police, ce jeune homme s'est opposé à l'arrestation de son cousin. Il était armé d'un couteau et a menacé les policiers. Les jeunes du village ont érigé des barricades, mis le feu à des pneus et lancé des pierres sur les policiers. Cet incident, qui risque de mettre encore plus le feu aux poudres, intervient alors qu'à Jérusalem-Est et dans les villes et villages palestiniens avoisinants, les forces de sécurité israéliennes ont considérablement renforcé leurs effectifs en raison des violences. La tension persiste, les affrontements entre jeunes palestiniens et forces de l'ordre sont quasi quotidiens. Après l'attentat à la voiture Bélier à une station du tramway il y a 2 jours, qui a fait 2 morts et plusieurs blessés, Netanyahou a donné son accord. Désormais, les maisons des coupables d'actes terroristes seront démolies, a-t-il dit. Pour l'heure, les autorités n'ont pas encore mis à exécution ces mesures, mais des policiers ont déjà effectué de vastes perquisitions dans les maisons visées. Et puis, puis, c'est l'esplanade des mosquées qui reste le point central de toutes les tensions. Les forces de sécurité restent en état d'alerte maximale. Les prières du vendredi se sont fort heureusement déroulées sans incident majeur, mais la vigilance reste en vigueur, notamment à l'approche des commémorations des 10 ans de la mort de Yasser Arafat.
3 jours après la défaite électorale cinglante des démocrates, Barack Obama tente de reprendre l'initiative. Sur le plan international, le président américain annonce l'envoi de 1500 hommes supplémentaires en Irak pour conseiller les Irakiens dans la lutte contre le groupe État islamique. Et sur le plan intérieur, Barack Obama vient de nommer Loretta Lynch comme ministre de la Justice, la première femme noire à ce poste. À Washington, Frédéric Carbone.
Il aura fallu la présidence Obama pour que les minorités trouvent une place au sommet de la justice aux États-Unis. Loretta Lynch succède en effet à Eric Holder, premier afro-américain à occuper cette fonction, et à la Cour suprême siège désormais Sonia Sotomayor, première femme hispanique parmi les plus hauts magistrats américains. La nomination de la procureure de Brooklyn sera aussi le premier test de la cohabitation. Elle doit être approuvée par le Sénat, cela ne devrait pas poser de problème. Loretta Lynch n'est pas une proche de Barack Obama et dans d'autres fonctions, elle a obtenu l'appui unanime des Républicains. C'est un choix consensuel. Cette nomination intervient à quelques jours d'une échéance judiciaire cruciale. Le grand jury du tribunal de Saint-Louis doit dire si oui ou non le policier blanc qui a tué Michael Brown à Ferguson est inculpé. La tension est remontée au fil des rumeurs ces derniers temps. Eric Holder s'était fortement impliqué. À New York, à la fin des années 90, Loretta Lynch avait poursuivi et fait condamner un policier qui s'était acharné sur un immigrant haïtien. Ce cas était devenu emblématique de la brutalité policière aux États-Unis.
L'enquête se poursuit sur le vol de la Malaysia Airlines tombé cet été en Ukraine dans la partie du Donbass contrôlée par les séparatistes pro-russes. Bert Koenders, le ministre néerlandais des Affaires étrangères en visite à Kharkiv en Ukraine, a déclaré que tous les corps ne pourront certainement pas être retrouvés. La chute du Boeing avait fait 298 morts, dont 2/3 de néerlandais. L'horreur a peut-être bien eu lieu dans le sud du Mexique. Il semble de plus en plus probable que les 43 étudiants disparus ont été tués et leurs cadavres brûlés. Un scénario de film d'épouvante présenté lors d'une conférence de presse par le ministre mexicain de la Justice. À Mexico, la correspondance de Patrick John Buff de RFI.
Ce n'est pas encore une certitude, mais tout indique que les corps des 43 étudiants, ou ceux qu'il en reste, ont été retrouvés. Sur la base des informations et des indices livrés par le ministère public, il semblerait qu'il n'y ait plus vraiment de doute, même s'il faudra attendre les résultats des tests ADN pour connaître l'identité des corps carbonisés et confirmer qu'il s'agit bien de ceux des étudiants. Mais c'est un travail difficile et qui prendra du temps, raison pour laquelle le procureur, Jesús Murillo Caram, s'est montré très prudent lors de la présentation de ces nouveaux éléments.
L'enquête se poursuit jusqu'à ce qu'on épuise toutes les possibilités qui permettent d'identifier les restes humains découverts dans le ravin et dans les sacs retrouvés dans le Rio San Juan. Pendant ce temps, on continuera à considérer comme disparus les étudiants d'Ayotzinapa dans le but de mener à bien l'enquête.
Mais les déclarations du procureur sur la mort probable des étudiants ont été accueillies avec méfiance par les parents des disparus. Ils refusent toujours de croire que leurs enfants ont été assassinés, comme le déclarait Felipe de la Cruz.
Pour nous, tant qu'il n'y a pas de preuve, nos enfants sont toujours vivants.
En plus, ils accusent les autorités de vouloir clore rapidement l'affaire, tout ça parce que le président Peña Nieto part dimanche en Chine pour une semaine.
Pour prolonger ces explications de Patrick John Buff depuis Mexico et pour tenter de comprendre, nous avons invité dans ce journal Jeannette Abel, professeure à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
On a du mal à comprendre, vu de France, comment ce pays, le Mexique, qu'on nous présente comme la vitrine de la réussite économique des pays émergents, avec une croissance impressionnante, avec l'émergence d'une classe moyenne éduquée, peut encore être victime d'une violence que l'on croyait révolue.
Écoutez, je crois que c'est une image qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce que la réalité, c'est que depuis des années, le Mexique est un pays dans lequel il y a une collusion, et pas seulement à l'échelle locale, entre les autorités élues, certaines des autorités élues, les narcotrafiquants, les policiers et parfois même certains responsables de la justice. En l'occurrence, ce crime horrible est arrivé dans une ville de 130 000 habitants dont l'ancien maire versait plus de 150 000 euros mensuels à un gang de narcotrafiquants qui s'appelle Guerreros Unidos, les Guerriers Unis. Donc une partie de ces versements revenait aux tueurs de ce cartel dont certains étaient reconvertis en policiers municipaux. Et il y a des antécédents dans cet État, y compris de meurtres de dirigeants paysans, etc. Donc en fait, derrière tout cela, ce que cette affaire révèle, c'est l'ampleur de l'infiltration des institutions publiques par le crime organisé. Donc, on peut même parler, dans certains cas, de narco-État, tant les coupables bénéficient de protections politiques.
Mais est-ce que pour la population, c'est l'affaire de trop ?
Ah oui, probablement. En tous les cas, après beaucoup d'affaires, c'est une affaire qui, là, prend une dimension politique nationale et internationale. Il faut comprendre que la femme de l'ancien maire, Madame Pineda, était la sœur de trois narcotrafiquants qui dirigeaient des activités à Iguala, donc dans cette ville, du cartel de ces guerriers unis, de ces Guerreros Unidos. Vous savez, il y a quelques années, on avait même découvert au Mexique que l'un des généraux qui était chargé de la lutte contre les trafiquants de drogue était lui-même impliqué dans ce trafic de drogue. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et en réalité, il y a maintenant une collusion entre des secteurs du crime organisé, des autorités locales, mais également régionales. Et on peut s'interroger si ça ne va pas au-delà de ça. C'est un mélange maintenant de policiers corrompus, d'organisations criminelles, et d'autorités politiques dont on ne sait même pas à quel échelon se situent les commanditaires. Et derrière tout ça, il y a la corruption, la délinquance, le népotisme, le blanchiment d'argent, sans parler même de la libre circulation des armes qui proviennent des États-Unis et utilisées par ces narcotrafiquants.
Jeannette Hamel, je vous remercie d'avoir été en direct dans ce journal. APEC, quatre lettres en anglais pour Forum de coopération économique Asie-Pacifique, une réunion des chefs d'État de la région qui se tient à Pékin. L'occasion également pour tenter de régler de vieux différends. C'est le cas entre la Chine et le Japon, qui sont en relation historiquement difficile et qui se disputent toujours la souveraineté des îles Senkaku. Pour tenter de faire baisser la tension, le président chinois Xi Jinping recevra le premier ministre japonais Shinzo Abe, leur toute première rencontre à Tokyo. Frédéric Charles.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe en décembre 2012, les relations entre le Japon et la Chine se sont profondément détériorées. Shinzo Abe s'est rendu au sanctuaire de Yasukuni, où sont honorés parmi les morts pour la patrie 14 criminels de guerre. Ce pèlerinage de Shinzo Abe est considéré par Pékin comme une absolution du passé militariste japonais. Les tensions se sont aussi accrues entre le Japon et la Chine depuis la nationalisation par Pékin des îles Senkaku en mer de Chine orientale, dont la souveraineté est aussi revendiquée par Pékin. Aujourd'hui, les relations entre le Japon et la Chine sont au plus bas depuis leur normalisation en 1972. Sous la pression des États-Unis, le premier ministre japonais cherche depuis un an à rencontrer le président chinois. Il s'agit d'éviter que les tensions territoriales autour des îles Senkaku ne débouchent sur un conflit armé. La Chine affiche ouvertement ses ambitions de dominer la région, à des conflits territoriaux avec d'autres voisins, et cherche à reléguer le Japon au rang de puissance mineure.
Il y a un an exactement, le typhon Haiyan dévastait le centre des Philippines, faisant plus de 7300 morts et des millions de sans-abri. Un an plus tard, la reconstruction a pris du retard, les sans-abri sont toujours dehors et l'ONG Oxfam lance un appel à la mobilisation internationale. Un archipel philippin est plus globalement une région directement menacée par les conséquences du réchauffement climatique. Après-midi nuageuse sur la France, mais avec des températures douces sur la moitié nord du pays. Il fera entre 11 et 14 degrés avec quelques pluies dans l'ouest. Au sud de la Loire, les températures s'étalent entre 10 degrés dans les Alpes, mais en moyenne, il fera entre 13 et 20 degrés pour la Corse. Midi 45, fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal à 18h.